Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Coming soon to this theater, a ghastly, foolish, and totally incredible motion picture. The Werewolf versus the Vampire Woman.
Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée alors au fantastique et à l'horreur en Espagne. Parce qu'on s'est rendu compte que les sorties récentes en Blu-ray DVD nous permettaient d'aborder l'Espagne à travers différentes époques et en particulier son cinéma fantastique, son cinéma d'exploitation même, on peut le dire comme ça. Et on causera donc de différents films aujourd'hui. On va vous parler de La Furie des Vampires, de Léon Klimovski, qui est un film de 71 qui est sorti chez Rimini Éditions. On va vous causer aussi d'un coffret édité par Carlotta Film qui s'appelle Coffret Terreur Ibérique et qui permet de voir Une bougie pour le diable de Eugenio Martin, un film de 74, et Poupée de sang, alors que beaucoup connaissent sous le titre Escalofrio. D'ailleurs, il était déjà sorti chez un autre éditeur, Uncut Movie, sous ce titre, mais là, la copie est nettement plus belle. C'est un film de Carlos Puerto, c'est un film de 1977, donc les deux derniers sont dans ce coffret Terreur Ibérique chez Carlotta Film. Ensuite, il y a nos amis d'Artus Film qui nous sortent aussi, alors c'est pas nouveau, hein, d'ailleurs ils ont sorti il y a très 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 longtemps, pourquoi pas une ressortie en Blu-ray dans une très belle copie aujourd'hui, Le Bossu de la Morgue de Javier Aguirre, qui est l'un des grands grands classiques du bis espagnol. Et là, ils sortent Les Rites Sexuels du Diable, qui est un film plus tardif, un film de 1982, de José Ramón Larraz, on va le prononcer à la française. Et puis, on va quitter Artus Film, parce que quand on parle fantastique, il y a souvent ESC Éditions dans le coup, c'est quand même un peu des spécialistes de l'édition de films fantastiques. Et on va vous parler d'un film très 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 récent, qui est un film de 2022, mais qui est sorti plus tard, 2024 ou 2025 en salle en France, et que là, nos amis de ESC sortent. Donc c'est un film de Calle Casas, qui s'appelle Accident Domestique, un petit sommet de cruauté. On va développer tout ça dans l'émission. On va d'abord remercier Lucie Mautier, Kevin Boissezon, Thierry Lopez et Timothée Tricard pour leur aide, hein, pour réaliser cet épisode de Culture Prohibée. Et puis, bah, pour causer fantastique, pour causer cinéma d'exploitation avec un peu d'érotisme et d'horreur aussi, hein, en pays d'Espagne, je suis accompagné aujourd'hui de la Bête Noire de Compiègne, alias Damien Demey, qui est, comme vous le savez tous, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimera Tech, disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Hola a todas las entidades conscientes que nos escuchan.
Mon cher Damien, on débute cette émission avec un personnage récurrent en fait du cinéma fantastique espagnol, qui est interprété par Paul Naschy. Paul Naschy, une légende, une véritable légende. Jacinto Molina de son vrai nom, mais Paul Naschy de son nom un peu américanisé, qui campe là un loup-garou, hein, dans un des films de la série. Alors, c'est pas le premier, hein, de la série des Valdemar Daninsky. Valdemar Daninsky, qui est donc un loup-garou d'origine polonaise. Alors, pourquoi polonais? Parce qu'on l'apprend dans les bonus de La Furie des Vampires, la version longue qui est éditée par Rimini, parce que tout simplement, il y a un Il n'y a pas beaucoup de bonus, mais il y a un entretien qui est super intéressant, en fait, de Laurent Aquenin. Et surtout, dans cet entretien, il y a un long entretien avec le regretté Paul Naschy. Et Paul Naschy explique qu'en fait, vu que le film a été fait sous Franco, sous la censure franquiste, il était hors de question que ce loup-garou soit d'origine espagnole. Voilà, il devait forcément être d'origine étrangère. Bon, on rappelle quand même que Franco, il a régné des dizaines et des dizaines d'années l'Espagne et que, évidemment, la censure était très présente, même si on a pu voir dans cette émission, parce qu'on a souvent parlé de fantastique espagnol, qu'elle a souvent été contournée avec habileté, tout en sachant là que la version qui nous est proposée, cette version longue, avec quelques scènes gentiment érotiques, mais beaucoup trop érotiques pour une censure franquiste, c'est une version en fait destinée à l'export. C'est pas la version que les Espagnols ont vue en salle. Hein. Les Espagnols, dans la version espagnole, les filles restaient habillées. Voilà, donc c'était beaucoup moins relevé que ça. Et là, dans ce film, alors c'est censé se passer en France. D'ailleurs, le réalisateur a quelques problèmes de géographie pour situer les régions françaises. Alors, à un moment, il parle du Nord, et on est clairement dans les Pyrénées, enfin, ça se voit, mais peut-être qu'il veut parler du Nord de l'Espagne, ou qu'il se mélange un peu les pinceaux, mais ça devient le Nord de la France dans le film, ce qui est absolument pas crédible. Et d'ailleurs, c'est un film à l'américaine, parce que ça se passe en France, mais tout le monde parle espagnol. C'est pas gênant. Bon, les Américains le font, pourquoi pas les Espagnols ? Ça ne nuit en rien, en fait, au film, hein, d'ailleurs. Et deux étudiantes, belles comme peuvent l'être deux étudiantes fin des années 60, début des années 70, des étudiantes pétries d'illusions sur ce monde dangereux, en fait. Et ces deux étudiantes, elles vont vouloir aller trouver le tombeau de la comtesse Wandesa, qui est suspectée de vampirisme. Elles vont se perdre dans la campagne, elles vont tomber en panne. Et là, elles vont rencontrer donc Waldemar Daninsky, qui va gentiment proposer de les recueillir. Bon alors, sauf si tu sais qui est Paul Naschy, si tu reconnais l'ancien champion, parce que c'est un ancien champion d'haltérophilie, Paul Naschy, avant de devenir acteur. Hein. Et sauf si tu sais ça, moi je ne suis pas ce mec au milieu de nulle part comme elles le suivent. Mais donc heureusement qu'elles le suivent, parce que ça va nous donner un film fantastique, ma foi, mon cher Damien, qui est un film fantastique assez étonnant, parce qu'avec un petit côté lancinant, presque psychédélique par moments, et en fin de compte, peut-être un des tout meilleurs alors je ne les ai pas tous vus, mais j'en ai vu quand même quelques-uns, et ils ne sont pas exceptionnels, l'un des tout meilleurs de la série des Waldemar Daninsky.
Dès l'introduction, on est dans une ambiance assez particulière, on est en pleine nuit, on a deux personnes qui vont... dans ce qui va être une morgue, en fait, parce que quelqu'un est mort, il a été tué parce que les habitants l'ont accusé d'être un loup-garou. Et donc, le médecin explique que ça n'existe pas, il retire la balle en argent, il dit si c'est un loup-garou, il va revenir à la vie. Et devinez quoi ? Il revient à la vie. Pas de chance. On voit qu'on est dans un film quand même légèrement fauché, qui fait avec ce qu'il peut, notamment toutes les transformations en loup-garou se font hors cadre, on est loin du loup-garou de Londres. Il a aussi une certaine passion qui confirme ce que tu disais sur ce côté un peu fantastique, un peu fantasme, un peu onirique du film, c'est qu'il a une certaine passion pour les machines à fumer et les lumières bleues au ras du sol, ce qui donne une scène que j'aime beaucoup dans les couloirs où l'une des héroïnes se fait charmer par une vampire et qu'on a toute cette ambiance assez mystique qui en ressort. Mais il arrive à faire des trucs assez cool. Ah aussi, non, dernier truc qui est pas ouf, les dents de vampire qui sont juste des dents rajoutées un peu à l'avant. Mais il y a des moments où, en fait, l'effort de montage et les bonnes idées arrivent à faire des moments qui sont très cool. Par exemple, il y a une scène où l'héroïne se regarde dans le miroir et, en fait, on a cette caméra qui va zoomer sur une partie du miroir où on ne voit rien. Et quand la caméra se tourne, en fait, on voit que cette partie de fenêtre, de l'autre côté, il y a un vampire et les vampires n'apparaissent pas dans les miroirs. Donc, ça crée des tensions. Il y a un autre moment qui est assez cool et que j'aime beaucoup, c'est la résurrection, la première résurrection du vampire qui est très sympathique avec l'effet cadavérique, la blessure, le sang qui tombe au-dessus dans sa bouche, qui la ramène à vie. Et hier, derrière, cette espèce de corps décharné avec une cape qui commence à les poursuivre, qui sont très très sympathiques. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que je vous ai parlé au tout début de loup-garou, je vous ai parlé de vampire. C'est justement un film où on a deux mythes qui s'affrontent, le mythe du loup-garou et le mythe du vampire. Personnellement, les seuls clashs de créatures que j'ai vus comme ça, c'était Alien versus Predator et Freddy contre Jason, donc c'est pas le haut du panier. Mais le film a une ambiance au final très sympathique parce que je trouve qu'il fait très drive-in de cinéma, ce truc un peu fauché avec le réalisateur qui arrive quand même à faire des trucs. Alors j'arriverai pas à dire si rencontrer l'univers du loup-garou et l'univers du vampire c'est audacieux ou s'il y a un certain je m'en foutisme. Par contre c'est assez intéressant de réussir à les faire vivre tous les deux dans un même univers parce que la menace principale du film c'est les vampires, même si on commence par le loup-garou. Et quand on se rend compte que le loup-garou est déjà dans la maison, qu'il y a ce truc où il risque de se transformer, mais que lui, il veut arrêter les vampires, en fait, on crée une deuxième menace à l'intérieur de la maison. Et le fait d'arrêter les vampires, ça ralentit. C'est une intrigue qui ralentit un tout petit peu parce que justement, il faut faire attention que cette personne ne va pas tuer nos héros. Il y a un dernier truc qui est intéressant, c'est que le vampire dont ils s'inspirent, on voit qu'ils prennent tout le mythe vampirique de la comtesse Elisabeth Báthory, ce qui veut dire qu'on a une certaine présence d'homo-érotisme féminin présent à l'intérieur du film, qui rappellera un tout petit peu Carmilla de Sheridan Le Fanu, qui justement inspira plus tard Bram Stoker pour son Dracula et qui avait déjà cette présence de personnage féminin dangereux avec une dose d'homo-érotisme. Au final, je sais pas pour toi, Jérôme, mais moi, La Furie des Vampires, j'ai trouvé bien sympa.
Bon, moi, je l'ai revu. Alors, cette tradition de faire affronter les monstres, elle remonte à très loin, puisqu'elle remonte au film de la Universal. Il faut savoir que Paul Naschy, quand il est jeune, donc quand il s'appelle encore Jacinto Molina, avant de devenir un sportif de haut niveau, il est enfant, il va au cinéma et il voit Frankenstein contre le loup-garou, il voit ses vieux films avec Lon Chaney. D'ailleurs, les producteurs avaient proposé le rôle à Lon Chaney Junior, qui était déjà trop vieux et fatigué pour l'accepter, pour jouer dans cette série de films espagnols. Hein. Ça marque profondément le jeune enfant Paul Naschy, parce que Paul Naschy, il faut mesurer les choses quand même. Paul Naschy, c'est une star, en fait, en Espagne. Voilà. Pourtant, il a fait des films fauchés, tout ça, nous on peut dire c'est un peu étrange, ce mec soit une star, c'est pas le meilleur acteur du monde, c'est pas le plus beau non plus, il a un physique particulier. Ouais, sauf qu'en vérité, ces films-là, ils avaient une part de subversion dans une Espagne franquiste et ils étaient populaires. Donc on allait prendre un petit frisson au cinéma, mais en même temps, on voyait des choses qui étaient en fait beaucoup plus subversives que ce qu'elles en ont l'air. Il y a des messages qui passent dans tous ces films-là. On parlera tout à l'heure de José Ramón Larraz. Lui, il passait des messages aussi dans ses films. Celui qui en passait le plus et qui a continué après, parce que Léon Klimovski, le réalisateur, il n'a pas d'ambition d'être un auteur. Mais après, il y aura Eloy de la Iglesia, dont on a pas mal parlé dans l'émission, qui est beaucoup édité chez Artus Film. Lui, c'était vraiment un auteur. Donc, il se servait vraiment du cinéma de genre dans son ensemble, l'horreur, le fantastique, le thriller, pour donner son point de vue, pour raconter ce qu'était l'Espagne franquiste, en fait. Et il a même fait un film qui s'appelle El Teco de Glace, le plafond de verre, qui est un giallo de machination, mais qui derrière raconte, en fait, la condition féminine dans l'Espagne franquiste. Donc c'est vraiment... On n'est pas chez Eloy de la Iglesia. On est dans un cinéma plus populaire et de fait certainement plus connu aussi. Hein, Paul Naschy, du coup, c'est une légende. C'est une vraie légende. Et donc, c'est un peu Paul Naschy qui décide de ce qui se passe aussi dans ses films. Voilà, il faut le dire. Il faut dire les choses. Énorme champion d'haltérophilie, donc déjà très populaire pour ça. Qui a failli être architecte, comme il le dit dans les bonus. Il a failli être architecte parce qu'en fait, il adorait dessiner. En fait, lui, c'était un fan de cette culture américaine. C'est un fan de ces vieux films de la Universal. C'est un fan des comics, et dans une Espagne franquiste, si tu veux dessiner et gagner ta vie, il faut être architecte. Voilà, donc il a fait des études d'architecture, mais on sent bien que il préfère aller faire des galipettes de loup-garou dans des films d'horreur, en tout cas ce qui était considéré à l'époque comme des films assez horrifiques, parce que c'est assez sanglant malgré tout, hein. Et moi, ce que j'aime bien dans le film aussi, tu as parlé de ce personnage, déjà, c'est la place donnée au personnage féminin. Parce que tout à l'heure, j'ai un peu rigolé en disant c'est vrai qu'elles sont super belles et qu'elles sont un peu cruches d'accepter de suivre ce mec et tout. Mais c'est aussi des femmes qui s'émancipent. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on montre des femmes qui prennent leur vie en main. Ce sont des étudiantes brillantes. Elles ont des sujets de thèse. Elles décident d'aller étudier le sujet, tout ça. Donc ça, c'est assez rigolo. Et puis derrière, quand même, le mal absolu, la grande méchante, c'est une femme, c'est pas un homme. Cette comtesse Vendezza, elle est interprétée en plus par Patty Shepard. Alors Patty Shepard, je ne sais pas si vous vous rappelez, les fans de Diallo s'en rappellent, dans Folie meurtrière, c'est elle qui se fait découper le visage par une sorte de scie circulaire. C'est une scène très très gore pour l'époque, qui a vraiment marqué les fans de Diallo, puis les fans de Beast tout court. Mais c'est une actrice américaine qui a joué comme ça quelques films en Europe. Très jolie, hein, avec un visage presque diaphane comme ça, qui sert très bien d'ailleurs le personnage qu'elle interprète. À un moment, il y a aussi une scène avec un mort-vivant, voilà. Alors qu'il est entièrement habillé, on voit surtout ses mains et son visage. Le loup-garou reste aussi entièrement habillé. Alors ce qui est crédible, évidemment, puisque on imagine bien que le loup-garou ne changeant pas de gabarit, il y a que ces parties qui sortent des vêtements que l'on voit poilus, mais c'est franchement une question de budget, ça c'est sûr. Et les transformations, d'ailleurs, moi je les trouve plutôt chouettes, elles ont leur charme, c'est des transparences en fait, c'est la bonne vieille méthode parce que y a pas les moyens. Et en fait, ça me va bien. En fait, voilà, ce film, en fait, je trouve qu'aujourd'hui il a un certain charme, il a une certaine patte, il a une certaine esthétique, et je suis très content de l'avoir revu dans cette version longue, alors qu'était déjà la version qui avait été sortie, si ma mémoire est bonne, chez 7-7 en DVD, hein, c'était déjà cette version-là. Bon, là, évidemment, la copie est super belle, hein, c'est remasterisé et tout, voilà, puis il y a comme d'habitude un livret de Marc Toulek qui raconte tout sur le film. Écoutez Culture Pourrie. Donc après cette furie des vampires sortie chez Rimini Édition, qui est entre guillemets d'ailleurs, Damien, pas la première fois où il affronte d'autres monstres, déjà dans les autres, c'était déjà un peu le cas. Voilà. On va passer à ce coffret, qui est un coffret édité par Carlotta Film, alors qui moi m'a fait découvrir un film que je connaissais pas. Alors Escalofrio, on le connaît, c'est un film que je connaissais bien, mais Une bougie pour le diable de Eugenio Martin. Un film de 1974, mon cher Damien, qui est un film assez particulier et qui en dit long sur l'Espagne de Franco, puisque 1974, on n'est pas trop loin de la transition. Voilà, donc c'est une drôle de... Enfin, c'est un drôle de film. Voilà, très intéressant.
Une bougie pour le diable d'Eugenio Martin, je crois que c'est la meilleure découverte parmi les films dont on vous parle aujourd'hui. Le résumé, il est très simple, c'est deux sœurs qui dirigent un petit hôtel en Espagne, on est toujours en Espagne, et là on est vraiment en Espagne, sauf que ces sœurs, surtout une est très religieuse, et en fait la morale des tourismes qu'elles reçoivent les dérange de plus en plus. Elles vont commencer à s'en débarrasser de manière vraiment très radicale, et en fait le film va partir là-dessus, c'est son point de départ. Alors malheureusement pour Eugenio Martin, qui est le réalisateur, c'est l'un de ses derniers films, et peut-être que dedans il y met pas mal de son expérience.
Sans doute, et puis c'est aussi le film qui fait au moment, parce que Franco est mort. Donc, ça change tout en fait quand Franco meurt. C'est pas encore la transition démocratique, on va y arriver, mais ça change tout pour les réalisateurs qui se lâchent, quoi.
Oui, il gagne une audace et une certaine liberté, et ça se voit dans les personnages qu'il a choisis. La première sœur, qui est celle qui a la morale, qui a un véritable antagonisme du film et qui a un passé trouble avec un fiancé abandonné, qui est celle qui va toujours pousser un peu au meurtre dès qu'elle va goûter. Entre guillemets, goûter au sang. Elle est jouée par Aurora Badista. La deuxième sœur s'appelle Veronica. Elle est jouée par Esperanza Roy, qui est aussi un personnage intéressant parce qu'elle obéit à sa sœur, mais elle essaie de vivre sa vie. Mais c'est assez compliqué parce que elle est un peu liée au passé de sa sœur. Et le personnage qui va jouer l'héroïne un peu de manière éparse, c'est Judy Judy Gerson qui joue le personnage qui s'appelle Laura Barclay, mais on l'appellera Judy je pense, qui est un personnage qui elle par contre a beaucoup tourné dans plusieurs films. Alors je vous dis que le film était génial, il reste sur un budget léger, mais je trouve qu'il a beaucoup de souffle, beaucoup de bonnes idées. L'introduction, c'est simplement Martha et Veronica qui tuent par accident l'une de leurs pensionnaires qui bronzait topless. Elle essayait de les rhabiller, elle tombe dans l'escalier. En fait, à partir de ce moment-là, il y a la sœur, du coup, Judy, qui arrive et qui demande où est sa sœur. Et elles vont commencer à cacher qu'elles l'ont tuée, bien évidemment, c'est le début du film. Et elles vont lui dire qu'elle est partie. Et Judy, elle va trouver ça étrange, elle avait décidé de rester. Et au fur et à mesure, on va avoir de nouvelles pensionnaires qui, elles aussi, vont disparaître de manière étrange.
Ah, des pensionnaires... En tout cas, aux mœurs jugées trop légères par ces deux femmes. Alors, ces deux femmes, c'est des personnages assez, assez étonnants parce qu'en fait, y a l'actrice anglaise qui débarque, qui elle, on la connaît, elle a joué dans beaucoup de films bis. On l'a vu chez Norman G. Warren, par exemple. Enfin, on l'a vu dans pas mal de films bis. Bon, elle a quand même passé une carrière cantonnée au petit budget, hein, mais c'est une actrice assez efficace. Et là, elle mène son enquête. Alors, en plus, la première victime, c'est sa sœur. Sa sœur qui, quand même, dans le quartier, suscite l'émoi de tous les garçons, puisque, elle bronze topless. Alors, elle est sur le ventre, hein, quand même. Hein, mais en tout cas, ça suffit à susciter l'émoi du quartier. On est quand même dans la campagne. Hein, donc,
sur le ventre et sur le toit du bâtiment. C'est-à-dire qu'elle n'est pas exposée au milieu de la place. Non, elle est vraiment dans son coin. Mais là, c'est déjà trop.
Ouais, c'est déjà trop. Et puis, c'est trop pour ces deux femmes étranges qui tiennent... qui sont des femmes qui tiennent cette auberge, qui sont deux sœurs, qui sont deux femmes, en fait, qui sont nourries de toutes les frustrations de l'Espagne de l'époque. C'est-à-dire, il y a cette frustration sexuelle, il y a ce poids de l'Église. Il y en a une des deux qui a un amant qui est un ouvrier, qui est un type plutôt sympathique, qu'elle paye à chaque fois, comme s'il était son prostitué, alors que lui, il y a une vraie relation entre eux.
Lui,
il n'a pas besoin,
vraiment.
Il ne veut pas être payé. Il l'aime vraiment, voilà. Et puis, il y a l'autre qui est encore plus azimutée. Et puis, elle va observer, il y a une scène très troublante, elle va observer des jeunes garçon tout nu, et en même temps elle est esquintée par des ronces et tout ça, et ça l'excite grandement, on le voit. Alors tout cela n'est pas évidemment montré de manière très graphique puisqu'on ne peut pas, je vous dis, c'est pas encore la transition démocratique quand ils tournent le film, mais on sent qu'il y a du changement en Espagne et que le film raconte quelque chose de l'ordre du poids justement de l'Église, du poids du franquisme, du poids des traditions en Espagne. Et toutes ces frustrations va naître, alors évidemment, la subversion la plus biblique qui soit, puisqu'en fin de compte, ces victimes finissent en viande pour les clients de l'hôtel, et mangent ceci et mon corps, quoi. Enfin, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de la dénonciation avec la plus grande violence possible du poids que fait porter et de la compromission de l'Église catholique, en fait, avec le Franco et le franquisme. Parce que Franco, c'est particulier. Franco, c'est vraiment des dizaines d'années de règne. Il meurt. D'ailleurs, son règne s'arrête parce qu'il meurt en 75. Son règne s'arrête pas parce qu'il est renversé ou quoi que ce soit. Les guerres des républicains qui veulent récupérer l'Espagne, c'est au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Donc on voit la durée de son règne qui est phénoménale, hein, et qui est un truc de dingue. Et la chape de plomb qui est vraiment présente sur l'Espagne, une chape de plomb qui est symbolisée par la chaleur, parce que c'est un film très organique. Les personnages suent, il y a de la sueur. Ça pointe par tous les orifices quelque part, cette humidité stagnante, cette ambiance lourde, putride comme ça, qui vient tétaniser le spectateur. Alors pour moi, c'est le film qui justifie l'achat du coffret totalement. Alors déjà, on le connaissait pas, on le découvre. Moi, Eugenio Martin, je connaissais ses autres films. Alors j'avais même travaillé pour Artus Film sur un bonus pour Les Tueurs de l'Ouest, qui est un autre film d'Eugenio Martin, qui est sans doute son meilleur film avec celui-là. C'est-à-dire que les deux meilleurs films d'Eugenio Martin, pour moi, c'est Une bougie pour le diable et Les Tueurs de l'Ouest, sont pour moi deux excellents films. Aussi deux excellents scénarios. C'est un excellent scénario aide souvent à faire un excellent film. Et le reste de sa carrière est un peu plus lâche, un peu plus leste. Bon, il y a ce Terreur dans le Shanghai Express qui est un peu connu, voilà, parce qu'il y a y a un casting, il y a Peter Cushing, tout ça, mais c'est pas un réalisateur du bis espagnol parmi les plus connus. Mais ce film-là, et pour moi, c'est le cas de le dire, a marqué d'une croix, parce qu'il va très très loin dans l'exploration de la psyché d'un peuple, en fait. C'est un film qui prend une tournure sociétale, à mon avis, à son insu, c'est peut-être même pas volontaire, il voulait certainement faire un film d'épouvante, bien flippant, mais ce qu'il décrit, ce cas clinique de tueur, et dans un cadre naturaliste, parce que c'est ça aussi, on l'a pas assez dit, c'est-à-dire qu'on est dans un cadre naturaliste, qui fait que le film, alors beaucoup l'ont rapproché de La longue nuit de l'exorcisme de Fulci, qui est lui aussi dans un cadre naturaliste, évidemment, mais le film de Fulci est beaucoup plus sophistiqué. Fulci était un esthète quand même, c'est un réalisateur d'une autre trempe que Eugenio Martin. Là, le film a vraiment un côté très naturaliste. C'est-à-dire que le film, les décors, l'environnement, ça ne fait pas rêver. D'ailleurs, cet afflux de touristes, on se demande un peu ce qu'ils viennent faire là, parce que le village n'est pas vilain, mais il n'est pas non plus sensationnel. Il n'y a pas de trucs extraordinaires à voir.
Bah, y a que deux trucs, au final, qu'on voit un peu. C'est-à-dire que les touristes, au minimum, ils ont la plage. Là, on voit la scène un peu malsaine. Scène qui est juste avant introduite par le fait que Véronica retrouve son amant. Et au moment où elle rentre chez lui, on a une scène d'érotisation du corps masculin avec son amant Louis qui dort sur le lit. Sa sœur qui part pour la chercher, qui ne la trouve pas chez Louis, qui va la chercher au bord de la plage et qui tombe sur Louis en train de jouer avec des camarades tout nus. Et comme tu as dit, il y a ces scènes derrière où elle part, elle essaye de rentrer chez elle au milieu des ronces, où elle se retrouve blessée, un mélange de torture, de douleur, de sexualité, voire de plaisir. Mais c'est difficile à bien savoir si elle apprécie ce qu'elle vient de vivre ou pas, sachant que le soir, elle a un peu ce changement d'apparence où elle se fait belle pour aller se séduire, et sa sœur lui renvoie à son passé trouble en disant « Non, t'es moche, arrête » et tout. Deux sœurs, d'ailleurs, qui ont une relation un peu particulière d'antagonisme, on reviendra dessus après. Donc, on a potentiellement la plage, et on a ce musée où on n'y va qu'une seule fois. On a aussi une piscine au milieu du village, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, mais au final, on ne sait pas trop ce qu'ils viennent y faire.
Bah parce qu'on est beaucoup cantonné à cette auberge, en fait. Et moi, je pense que là. Moi, je pense que, en fait, elle y prend plaisir et que, du coup, quand elle regarde ses gamins, et que, du coup, le fait qu'elle se griffe, qu'elle se prend dans les ronces et tout, c'est de la notion du martyr aussi, quoi. Et parce qu'en fait, elles sont tout le temps en train d'expier leurs péchés. Et donc, celle qui couche avec son ouvrier pour expier, elle le paye parce que. Lui, il l'aime bien, il comprend même pas qu'elle. Alors, en plus, ce sont des femmes pas du tout avec des physiques disgraciées ou quoi que ce soit. Enfin, ce sont des physiques classiques. Mais parce qu'en fait, elles ne peuvent pas être elles-mêmes. Je pense que ça, c'est un des messages fondamentaux du film. Et être elles-mêmes, je pense que si elles avaient une sexualité qui, sans le poids de l'Église, sans le poids du franquisme et de la société qui les entoure, si elles avaient la sexualité qu'elles ont envie d'avoir, bon. La plus âgée est quand même tournée vers les petits-enfants, donc elle, c'est plus compliqué. Mais l'autre a une sexualité classique, je veux dire.
Il y a le poids de la société, il y a aussi le poids de sa sœur elle-même. On sent que la majorité des meurtres, c'est une question de jalousie, mais il y a une fracture générationnelle entre elle et les pensionnaires qui viennent, dont une partie sont déjà dénudées, mais aussi elles sont plus libres et beaucoup plus indépendantes, notamment la dernière victime qui... se retrouve tuée sur un quiproquo et qui enfonce Martha, la première sœur, dans son déni. Mais entre les deux, on voit qu'il y a vraiment ce poids, c'est-à-dire que les rumeurs, notamment pour la dernière victime, c'est le village qui l'emmène jusqu'à l'oreille de la sœur. Et ensuite, l'autre moment qu'on a, c'est justement la deuxième sœur qui cache le fait qu'elle a un amant, justement parce qu'elle veut rester proche de sa sœur et qu'elle sait que sa sœur n'accepterait pas. Donc on a un peu cette pression sociale de manière générale qui finit en étau sur les personnages.
Alors ça s'appelle Une bougie pour le diable, c'est signé Eugenio Martin, c'est disponible chez Carlotta Film dans le coffret Terreur ibérique. Vous écoutez Culture Prohibée, spécial fantastique espagnol. toujours dans le coffret Terreur ibérique. Alors, on va aller un peu plus vite parce que c'est un film dont on avait déjà parlé, qui était sorti chez Uncut Movies, qui s'appelle Poupée de sang, mais qui a aussi le titre de Escalofrio. Alors, qui est un film, là, ça y est. Le film sort pendant la période de transition démocratique. Cette période de transition, elle va durer un certain temps quand même. Elle va démarrer en novembre 75, elle va se terminer en 1982. Quasiment en novembre aussi, le 28 octobre, avec l'arrivée du Parti Socialiste Ouvrier au pouvoir. Et c'est une période où les réalisateurs vont clairement tester les limites de la censure. Il va se mettre en place une classification qui va être l'équivalent un peu du X qu'on a en France. Je crois que c'est le S là-bas. Enfin, il va se mettre en place une classification. Et le film, là, Escalofrio, il s'intègre complètement, en fait, dans cette mouvance de films qui c'est du cinéma d'exploitation pour faire venir du monde dans les salles. On rappelle quand même que les Espagnols qui habitent la frontière, traversaient la frontière pour voir des films pornographiques, en fait, sous Franco, ils traversaient la frontière française et ils venaient en France regarder les films dans les cinémas frontaliers. On va commencer à en donner, entre guillemets, pour leur argent en termes de cinéma d'exploitation au public espagnol. Et donc, ce qui va se passer, là, Carlos Puerto, lui, il flirte avec les limites de la bienséance, évidemment. Enfin, il les piétine même allègrement pour l'époque. Donc, on est en 77. Là, ça fait deux ans que la transition a démarré et que la censure lâche du lest. Et Escalofrio, c'est quoi ? C'est simple. C'est un jeune couple. Ils sont jeunes, ils sont beaux. Ils se font accoster par un homme dans la rue qui prétend les connaître, qui dit qu'il est un ancien camarade de classe. Il les emmène dîner dans une maison un peu isolée, une belle maison. Et la soirée va prendre, évidemment, une étrange tournure après une séance de spiritisme. Parce que, par contre, ce qui est prégnant et ce qui va revenir aussi dans un autre film dont on va parler ensuite, c'est cette notion de culte. C'est cette notion de... Parce qu'on a loué Dieu très longtemps, on va louer Satan, du coup, là, dans les films dont on parle aujourd'hui. On va louer le diable, en fait, qui vient en contre point un peu, vous avez comment dire, avalé, mangé, digéré du chrétien pendant des années, maintenant on va aller sur le satanique, quoi. Voilà, c'est assez rigolo et c'est quelque chose qui se retrouve. Alors, Escalofrio, évidemment, un film qui a pour tendance, parce que quand on parle de séances de spiritisme, évidemment, c'est des séances de spiritisme, tout le monde est tout nu. Voilà. Donc c'est le but, c'est de montrer beaucoup de nudité. Et le film a quand même quelques idées. Alors je préfère l'autre film dans le coffret, mais le film a quand même quelques idées assez étonnantes. Il y a par exemple cette étrange introduction avec un spécialiste en démonologie qui présente un peu le sujet du film. Puis après, il y a le film. Et le film, en fait, c'est un film qui est un film plus sur le libertinage presque que sur le satanisme, quoi, et qui est un film très très particulier, puisque là encore on nous présente donc une secte, et cette secte, elle est un peu quelque part, et je pense qu'on peut le voir comme ça, la métaphore d'un pouvoir dictatorial qui est proche du religieux et qui s'en vient détruire en fait un couple d'une grande humanité, d'une grande pureté. C'est-à-dire, à un moment, on voit ce couple dans une baignoire, on voit ce couple qui parle d'avenir, qui parle de projets d'enfants. D'ailleurs, je vais y revenir. Mais, donc, on vient souiller ce couple qui est d'une grande pureté, mais en même temps, je vous le disais, ce couple ne se déparait pas de 2000 ans de joug du judéo-christianisme, et il aborde un désir d'enfant très, très, très prégnant. Par contre, comment on peut le lire ? Est-ce qu'on peut le lire que dans un monde débarrassé de Franco, dans un monde en transition, on peut penser à fonder une famille ? Ou est-ce qu'on se dit que c'est plutôt une conséquence du triptyque travail, famille, patrie, propre à tous les pouvoirs totalitaires quand même, et induit évidemment par le catholicisme qui est quand même très prégnant, qui est très prégnant dans tous ces films-là, dans tous les films dont on parle aujourd'hui de toute façon. Donc voilà, la question se pose. En tout cas, c'est un film qui a des très bons moments érotiques avec des scènes très sensuelles très, très étonnantes, très surprenantes. Et c'est un film, alors c'est un film bancal, c'est un film étrange, hein, c'est un film en tout cas qui a marqué son époque, puisque c'était l'un des tout premiers à être classé, donc c'est classé S, hein, je vous disais tout à l'heure, qui correspond à un classement X. Alors attention, on n'est pas dans de la pornographie du tout, hein, mais à l'époque c'était suffisant, puisqu'on... Il n'y a pas encore le Parti socialiste au pouvoir, tout n'est pas desserré encore, quoi, hein, les taux de la censure, il est quand même encore un peu présent, même si ça se relâche un peu. Voilà. Donc ça s'appelle Poupée de sang, ou c'est aussi connu donc, sous le titre Escalofrío, c'est de Carlos Puerto, et donc le film est disponible dans une superbe copie dans le coffret Terreur Ibérique, là, qui est paru chez Carlotta Film. On va quitter Carlotta Film pour causer... Mon cher Damien, de José Ramón Larraz, pas évident à prononcer, que, en fait, tous les amateurs de culture populaire connaissent, presque sans le savoir, puisque cet homme, que j'ai découvert moi autrefois grâce à un fanzine qui s'appelait « Nuit Blanche », et qui était un fanzine consacré à la culture populaire, et qui avait décidé, à l'époque où quasiment personne ne parlait de José Ramón Larraz, de... parler de cette icône de la culture populaire qui, en fait, a eu plusieurs vies, dont on a pu lire les bandes dessinées Cocardi, qui était carrément un mythique, hein, pour les amateurs de BD. Il faisait aussi Capitaine Baroud, qui était publié dans L'Équipe, et Capitaine Baroud qui va inspirer Bill Baroud. Beaucoup plus tard, à Manu Larsonnet, parce que tout ça, c'est des BD qui ont nourri des imaginaires. Il a été aussi publié dans ce qui ne s'appelait pas encore Le Parisien, qui s'appelait Le Parisien Libéré. Et il faisait des BD quotidiennes, ça s'appelait Cécile. Il était publié dans François, il a été publié dans Spirou. Et il va faire beaucoup de BD, comme ça, il va longtemps faire de la BD, parce qu'il va... Très très vite. Alors, il s'appelait souvent Gilles, G-I-L, c'était souvent le pseudo employé, parce qu'il va très très vite venir en France, très très vite quitter en fait Barcelone, parce que lui, il était plutôt républicain, quoi. Voilà. Donc il quitte Barcelone. Quand Barcelone est bombardée, il prend conscience en fait que les républicains, eh bien, ils vont pas réussir à abattre Franco. Lui, il veut vivre libre, donc il décide de partir à Paris. Alors après, il va se balader un peu en Europe. Il va faire Paris, il va faire Bruxelles. Donc il va travailler aussi pour le journal de Mickey, pour Pilote, pour Spirou. Donc il va vraiment travailler pour beaucoup de... Dans Pilote, il faisait Yves Labrousse, pour ceux qui ont des vieux pilotes à la maison. Fin des années 60, c'était avant la mutation de Pilote, en fait. Lui, il travaille pour Pilote, c'est avant 68, avant l'arrivée à Pilote de type comme Druyer, tout ça. Que... D'ailleurs, Uderzo ne comprenait pas du tout. Hein. C'est Philippe Druyer qui nous avait raconté ça une fois. Uderzo, il ne comprenait pas vraiment ce qu'on faisait, en fait. Il était super gentil, on faisait ce qu'on voulait, mais il ne comprenait pas notre univers. Et après, tous ces gens-là vont aller fonder Metal Hurlant, tout ça. Enfin, ça va être... C'est une des plus belles périodes pour la BD. Et puis après, il va aller à Londres, à partir de la fin des années 60. Et il va commencer à faire des films. Il va faire L'Enfer de l'érotisme, il va faire Déviation sexuelle, qui s'appelle Déviation, je crois, le titre le plus facile à trouver, parce que le film circule beaucoup, on peut facilement trouver ces films. Qui est une superbe musique de Cipriani, d'ailleurs, où c'est des films où vont commencer à apparaître, parce que c'est un cinéaste super intéressant. Il va faire un film culte qui s'appelle Vampire aussi. Et c'est un cinéaste super intéressant parce que c'est un cinéaste qui va développer une esthétique à la fois de l'horreur et du sexe avec une vraie tendance à mélanger le gothique et le vérisme et le naturalisme. Et il filme toujours dans des lieux très beaux, très élégiaques. C'est un cinéaste vraiment très très particulier, Vampire étant... étant son film culte avec Symptômes avec Angela Pleasance, la fille de Donald Pleasance, et il va vraiment faire des choses assez extraordinaires, je trouve. Et dès ses premiers films, on voit aussi qui fait quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'il exploite souvent l'un des thèmes de son cinéma, c'est la sexualité des personnages. Et surtout, il n'hésite pas, en fait, et ça c'est quelque chose qui se pratique très très peu dans les années 60, et surtout années 70 aussi, c'est il montre pas forcément des corps jeunes, il montre des femmes âgées, il montre des... C'est quelque chose de très étonnant, qui filme comme des corps jeunes. Hein. Il les filme à la même manière un peu que les standards de l'érotisme de l'époque, lui. Mais il montre en fait tout autre chose. Et c'est vraiment... faut comprendre, il faut connaître tout ça avant d'aborder ce film, donc là, qui sort Les rites sexuels du diable, donc qui sort chez Artus Film, qui est un film, alors que c'est un film mineur de Larraz, parce qu'il a même fait un giallo qui d'ailleurs dont le titre à l'international était Scream, bien avant le film de Wes Craven, et qu'on peut trouver, qui circule sur le net. C'est pas évident, parce que José Ramón Larraz, c'est vraiment un cinéaste qu'il faudrait d'ailleurs éditer, et des intégrales de ses BD aussi. Enfin, il y a tout un travail à faire autour de ce type que moi j'adore et qui est une vraie icône de la culture populaire, en fait, en vérité, qui est encore trop peu connue. Donc on peut espérer, parce que je sais qu'Artus Film, généralement, quand ils sortent un film d'un réalisateur, c'est qu'ils commencent à chercher à en sortir d'autres. C'est des éditeurs, moi je les remercierai jamais assez pour avoir exhumé tout ce qu'il y a exhumé sur Eloy de la Ecclesia, et je pense qu'ils vont continuer, enfin je l'espère. Et là, j'espère qu'ils vont continuer d'aller vers d'autres films de Larraz, peut-être ces films aussi les plus ambitieux. Et Larraz disait de ce film, mon cher Damien, qu'il faut le savoir quand même, lui, il le voit comme un film totalement cauchemardesque et un film dont il n'arrivait pas à revoir la deuxième partie, puisqu'en gros, il expliquait que son inconscient, ses fantasmes les plus dingues et tout, il les avait mis en image dans ce film, qu'à titre personnel, moi, je considère quand même comme un film plutôt mineur dans sa carrière. Mais en tout cas, toi, Damien, je pense que tu as découvert ce cinéaste avec ce film, parce que Damien, je ne répéterai jamais assez, c'est le petit jeune de la bande. Mais à force de le dire, à la saison 30, ce ne sera plus le cas. Mais et qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce film ?
J'ai trouvé Les rites sexuels du diable violent, déjà. Ce qui est quelque chose qui saute assez vite aux yeux et pas mal grossier, dans le sens où il y a plein de gros mots. Et ça aussi, ça m'a surpris assez vite. L'histoire est assez simple. On suit Carole qui se retrouve prise dans une secte libertine et satanique en Angleterre. De base, elle allait en Angleterre à cause de la mort brutale de son frère avec son compagnon. Ça va très mal se passer pour elle parce que au début, ça va encore. Elle arrive dans une belle demeure. Tout semble un peu innocent, mais elle se retrouve vite plongée dans quelque chose de sinistre, sadique et, comme je l'ai dit, violent, dont elle semble ne pas pouvoir s'échapper. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il y a pas mal. Déjà, il y a une ambiance très gothique, parce que, comme j'ai dit, tout se passait dans un beau manoir. C'est un film qui va mettre très vite en avant le côté sorcellerie et un peu secte. Il y a un côté Rosemary Baby de Roman Polanski, sorti des années plus tôt, justement, parce qu'on retrouve cette secte qui, au final, commence à avoir beaucoup d'emprise sur Carole, qui est incapable de se sortir dans la situation dans laquelle elle est. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans Rosemary Baby, en fait, on suit tout du point de vue de la victime. Donc, on se dit qu'il y a des trucs qui se passent, mais on n'est pas sûr. Alors que là, la caméra, elle est un peu de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on voit la secte s'organiser justement pour faire tomber cette jeune fille. On retrouve plein d'éléments pour essayer de la convertir. Par exemple, très rapidement dans le film, on va commencer à lui donner un thé qui est assez bizarre, un thé qui l'endort, qui lui provoque quelques somnolences, de la confusion et un peu de fatigue. Et en fait, s'ils font ça, c'est pour s'en prendre à son compagnon qui, à l'origine, est présenté comme quelqu'un de sympathique, un homme pieux. Il dit même que lui, il est un peu spécialisé dans les exorcismes. Et au final, il se retrouve rapidement dans la secte, très vite. S'il change aussi vite d'avis, c'est aussi parce que j'ai dit que c'était une secte libertine. Et ce qui va le faire changer d'avis, c'est littéralement une partie de Jean Moller qui, à partir de ce moment-là, va le faire voir un peu mieux ces gens qui étaient bizarres autour de lui. Il change rapidement d'avis, du coup. C'est aussi un film qui est rempli de pas mal de scènes très sadiques. Je repense à une mort par l'épée qui prend son temps où toute la secte est réunie, attrape un homme, le déshabille. Je vous dis pas par où rentre l'épée, mais ça le tue. Et c'est une scène qui prend vraiment son temps parce qu'on voit justement l'épée descendre de sa nuque jusqu'au bas de son corps, en tout cas là où elle s'arrête. C'est un film qui est vraiment très particulier. Je manque un peu de mots pour réussir à le décrire parce que, quand on est pris dedans, on a beaucoup d'aléas entre plusieurs personnages, parce que chaque personnage présent de la secte, ils sont pas nombreux, mais on a un peu l'idée de chacun ce qu'ils veulent et pourquoi ils sont dedans. Et c'est un peu triste de suivre le personnage de Carol, parce que on voit, plus le film avance, moins on voit qu'elle pourra s'y échapper. Et le problème, c'est que les portes de sortie qu'elle peut avoir, bah, elles se referment au fur et à mesure. Elle se retrouve finalement prise dans ce cercle absolument terrible.
Oui, c'est un film assez noir, en fait, assez jusqu'au boutiste. Il faut se questionner quand même sur cet inconscient collectif qu'on livre aux sectes en Espagne, dans le cinéma fantastique, horrifique, érotique, espagnol. Parce que c'est la question de la secte, c'est quelque chose qui hante tous les âges d'or, en fait, du fantastique espagnol. Le dernier âge d'or du fantastique espagnol, il démarre avec la secte sans nom de Balaguero, qui va derrière en amener à découvrir, bon, évidemment, le cinéma de Balaguero, mais d'autres aussi qui vont arriver, comme Paco Plaza, par exemple. Et tout ce monde-là arrive à peu près à cette époque-là. Et on est encore sur un film de secte qui est aussi terrifiant. Il y a quelque chose de l'ordre de la catharsis là-dedans. C'est-à-dire que on parle de personnes qui ont vécu Franco, qui c'est un réalisateur qui a dû s'enfuir, qui a dû partir. Les autres avant, ils étaient restés sur place, mais bon, ils se sont censurés, ils n'ont pas pu s'exprimer. Là, vous avez la génération Balaguero qui arrive, qui parle plutôt du terrorisme aussi, qui parle plutôt de l'ETA. L'ETA, qui, on rappelle, était une organisation noble et qui s'attaquait aux fascistes, et puis qui après a fait le choix de la lutte armée. Et ce qui a déclenché une vague d'attentats en Espagne, qui a ensanglanté l'Espagne et qui a rendu évidemment l'ETA beaucoup moins fréquentable, voire plus du tout fréquentable du tout. Et d'ailleurs, ce tournant est illustré dans un film qui s'appelle El Lobo, si ma mémoire est bonne, avec Patrick Bruel, je crois, mais qui est un film intéressant. Tous ces traumas, quand même, qui jalonnent l'histoire de l'Espagne, qui est un pays meurtri, et jusqu'à très récemment, en vérité. Hein. Donc, tous ces films-là servent un peu d'exorcisme, mais cette idée de secte qu'on retrouve tout le temps dans les films espagnols, ou de religion, ou de culte, quoi, quel qu'il soit, c'est quelque chose qui, je pense, n'est pas innocent, complètement.
Sans doute, parce qu'ils font le lien entre justement le franquisme et une secte. Parce que, avec ce que tu as dit, quand tu regardes le parcours de Carol, c'est quelqu'un qui part à l'origine, qui n'est plus en Angleterre, qui revient et qui se retrouve pris dans quelque chose qu'elle ne souhaitait pas, qu'elle intègre involontairement. Et vu que tu parlais de censure, au final, les gens qui sont dans une secte, même s'il y a des trucs qu'ils ne veulent pas faire, pour une grande partie, ils conduisent à le faire. Donc c'est peut-être ça qui jalonne, au final, tous ces films, ce fait de comparer le gouvernement de Franquis et l'Espagne même, là où ils vivent sous une dictature, au fait d'être pris dans une secte.
Sans compter qu'à l'époque, la race quitte l'Angleterre pour venir se réinstaller en Espagne. Donc il y a un lien, il a un lien avec son personnage là qu'on peut voir dans Les Rites sexuels du diable, donc qui est sorti chez Artus Film.
Lo que tiene delante es la famosa mesa de centro Roré. ¿Será su mesa preferida para tomar un café o un aperitivo con sus seres queridos?
Je voulais terminer en vous parlant d'un film plus récent, un film de 2022, un film de Caye Casas qui s'appelle Accident domestique et qui sort là chez ESC Édition, parce que là, c'est un peu pareil. C'est un film assez atypique. C'est un film très étrange. Alors, on démarre... C'est une comédie, en fait, mais avec des enjeux très noirs. Et ce que ça raconte est absolument ignoble, en fait, et horrible. Et on démarre par un couple qui a un jeune enfant. Et déjà, c'est un couple pas classique. C'est-à-dire qu'ils sont vieux, en fait. On voit tout de suite que c'est des gens qui... C'est leur premier bébé, mais ils ont plus de 40 ans. Et ça, déjà, ça dénote. Et après, évidemment, on sait qu'en Espagne, c'est un peu la patrie, même avant que GPA, PMA se soient autorisés, par exemple, en France. C'est le pays où tout le monde allait. Quand on avait atteint les limites en France ou en Belgique, on allait en Espagne pour procréer quand on ne pouvait pas avoir d'enfant. Et là, on sent que c'est un couple qui a eu beaucoup de mal à avoir l'enfant. On le saura plus tard dans le film, de toute façon, puisque ça viendra, sans être dit comme ça, mais ça viendra... Bon, elle expliquera qu'elle a eu énormément de mal à l'avoir, qu'elle y tient du coup comme à la prunelle de ses yeux. Et on sent qu'elle est, c'est une mère, enfin c'est un couple qui va pas très très bien. On sent que, on sent qu'en fait cette femme, c'est, elle est un peu castratrice pour son homme, mais que son homme, il est aussi très dilettante. Il est aussi atteint de ce fameux syndrome de je suis un homme, mais je ne prends pas de responsabilité. Voilà, qui est quand même une des plaies aussi des sociétés contemporaines, hein, où les gens se plaignent sans vouloir prendre de responsabilité, sans vouloir prendre d'engagement. Voilà, il raconte ça aussi, ce personnage. Et ce couple, au demeurant plutôt sympathique, hein, voilà, et ce couple est confronté à un vendeur qui est un personnage terrible, terrible, un personnage drôle, tragique. Il a un physique disgracieux, c'est fait exprès. Hein. C'est un personnage qui pue la solitude et dont la misère sexuelle crève l'écran. En fait, c'est un personnage qu'on va voir très peu de temps dans le film. On va le voir là, puis on va le revoir un peu plus tard dans le film. Et c'est terrible, ce personnage. Il fait énormément de peine. Il rappelle tous ces personnages d'un des grands maîtres du fantastique et de l'exploitation espagnole, Alex de la Iglesia. Il rappelle tous ces personnages à la fois effrayants. En même temps, il a une sale gueule, il a le côté, il a une gueule de pervers, on ne sait pas trop. Enfin, c'est vraiment très, très étrange. Et en fait, ce personnage, il est vendeur. Alors, ils sont dans un magasin de meubles et il veut leur vendre une table qui est d'une laideur sans nom. Voilà. Mais réellement, elle est très, très laide. Et le mari la veut. On ne sait pas pourquoi. Bon, elle est soi-disant en verre incassable, tout ça. Enfin, bon, bref. Quand on sait que même on peut flinguer des voitures par balle, donc il n'y a rien qui est vraiment en verre incassable. Mais bon, même le verre blindé. Et donc là, le mari finit par avoir gain de cause. Alors, c'est une sorte de victoire pour le mari, quelque part. On devine que c'est quand même sa femme qui gère tout dans la maison, qui fait tout, quoi. Voilà. Et il ne lui laisse pas le choix. D'ailleurs, dans le magasin, dès le magasin, le mari se plaint de ne pas pouvoir prendre de décision, d'être castré par sa femme, en fait, en quelque sorte. Et puis sa femme, quelques temps après, va vouloir se prendre un petit moment de répit pour elle, voire aller faire les courses, tout ça. Et donc son mari va garder le gamin. Et là, il va se passer quelque chose. Je ne peux pas vous révéler qu'il y a quelque chose d'absolument horrible. Voilà. Et sauf qu'il y a le frangin du mari qui doit venir avec sa belle-sœur. Alors le frangin, qui est un type plutôt, on va dire tendance bobo si on veut caricaturer, et qui donc qui vit avec une petite jeune qui est belle comme un cœur, et puis qui a eu le tort de mettre enceinte, en fait. Et c'est ça, d'ailleurs, aussi sauvagement que ça, que va lui dire son frère pendant le repas. Et à côté de ça, ce couple-là, il a une voisine d'avoir 14 ans, elle est persuadée que le mari est amoureux d'elle, alors que le mari, il est irréprochable. Hein. Il lui a juste fait... Il l'a croisée dans l'ascenseur, comme c'était sa voisine, il lui a fait la bise une fois, et la gamine, elle a 14 ans, elle fantasme à fond sur lui. Sauf que lui, il n'a rien demandé, le pauvre. Et donc, à partir de là, il va y avoir un repas. Et le mari, il a quelque chose à cacher, évidemment. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, c'est très compliqué de décrire ce film sans décrire l'élément le plus perturbateur du film, le plus étrange, ce fameux accident domestique. Voilà, qui fait que le film bascule dans autre chose et dans l'horreur, parce que c'est vraiment très gore. Et là, le film a vraiment... c'est vraiment un film sur la pression de la société, la pression de la parentalité, la pression d'un modèle de société, puisque dans la chambre de l'enfant, par exemple, il y a un Christ fluo accroché au mur en décoration. Et il y a le poids de cette religion, il y a le poids de la mère, il y a le poids de toute cette société espagnole qui transparaît dans le film. C'est un film très, très cruel, je le dis vraiment à ceux qui ne l'ont pas vu. C'est un film qui a certainement très peu de moyens parce que c'est un quasi huis clos. Hein, et c'est un film dont quand même... Enfin, il faut avoir le cœur bien accroché parce que c'est assez insoutenable, en fait, en vérité, sans en montrer beaucoup, mais c'est assez insoutenable parce qu'il y a un enjeu dramatique qui est très, très fort dans le film, en fait, et qui fait que le film est... On sait que ça va exploser, on attend juste quand, comment ça va exploser. Voilà. Donc, c'est un film très particulier. C'est un petit film. Cahiers Casas, ça fait d'autres films, surtout des courts-métrages. On voit bien que c'est plutôt tourné avec une bande de potes dans les bonus et tout. On voit bien qu'il n'y a pas énormément de moyens. Mais ça fonctionne très très bien et Maintenant, on a envie de voir ce que va nous faire Kaye Casas pour ses prochains films. En tout cas, j'ai envie de dire, cet accident domestique de Kaye Casas qui donc, est sorti chez ESC, là, c'est, vous n'allez peut-être pas y croire, mais c'est une sorte de version plus cruelle encore des premiers Alex de l'Ecclesia. Donc oui, c'est possible, vous allez voir. Donc je vous le conseille vivement. Je ne sais pas si vous allez passer un bon moment, si vous allez m'en vouloir. Mais en tout cas, je vous le conseille vivement, c'est vraiment à visionner. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite, graphite.net. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier et dit La Gorgone. Une émission animée avec Damien Demédi, la bête noire de Compiègne. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine !